Nous allons peut-être pouvoir commencer. J'aimerais vous signaler ou vous rappeler d'abord que nous aurons ce vendredi 8 février donc une conférence de Günther Gebauer qui, invité par l'Assemblée des professeurs du Collège de France, viendra parler de l'anthropologie entre guillemets de Wittgenstein. Donc ça se passera en salle 5 vendredi à 17h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Denis Perrin, qui nous vient de l'Université de Grenoble, qui est selon moi un de nos meilleurs jeunes Wittgensteiniens. Il est l'auteur d'une thèse de doctorat sur Wittgenstein, consacrée donc au problème du temps chez Wittgenstein, qui a été publiée, du reste sous le titre « Le flux à l'instant », c'est bien sûr, chez Ivrin, dont je vous recommande vivement la lecture, parce que Wittgenstein avait des choses, bien qu'on y pense plutôt rarement, des choses tout à fait intéressantes et originales à dire sur le problème du temps. Donc, Denis Perrin a apporté une contribution que je considère comme majeure à la réflexion sur ce problème. Alors, aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet qu'il a intitulé « Construire une synopsis, construire un système », ou peut-être plus exactement, si je me fie à l'intitulé de sa synopsis, justement, « La présentation synoptique, ressemblance et morphologie ». Je lui laisse le soin de préciser de quoi il s'agit exactement. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier très chaleureusement, Jacques Bouvresse, pour votre invitation et l'occasion que vous me donnez de prendre la parole dans votre séminaire. J'en profite aussi pour remercier Jean-Jacques Rosa, puisque le résultat que je vous présente aujourd'hui provient notamment de discussions que nous avons eues tous les deux, mais évidemment toutes les âneries qui pourraient être dites par moi aujourd'hui ne sont imputables qu'à moi, bien entendu. Alors, il nous a semblé intéressant, Jean-Jacques assurera une séance prochaine sur la même notion wittgensteinienne, il nous a semblé intéressant de donner la parole à un auteur qui se présente d'une façon assez nette comme un auteur asystématique. Et nous le verrons, notamment dans les textes qui figurent dans le document qui a dû circuler, que vous devez avoir en main, qui vous indique le plan de mon exposé, les textes principaux sur lesquels je me suis appuyé. Nous verrons dans certains de ces textes des affirmations franchement opposées à la notion de système et franchement opposées au projet de la construction d'une philosophie systématique. Donc c'est une voie une voie très critique à l'égard de la notion qui est traitée dans ce séminaire. Je vais commencer par vous présenter, c'est ce que j'ai intitulé la dimension syntaxique. Disons le point de vue que je prends général sur la pensée wittgensteinienne. Et ce qui me semble important de dire en commençant la présentation de cet auteur. Il est indispensable, je crois, pour pouvoir mesurer l'importance de la notion que nous allons étudier, donc cette notion de présentation synoptique, en allemand c'est Übersichtliche Darstellung, de la rattacher à ce qui constitue sans doute l'un des traits fondamentaux de la conception et de la pratique wittgensteinienne de la philosophie. Il s'agit de ce que l'un de ses commentateurs a récemment décrit comme le fait de ne jamais séparer les questions philosophiques des questions syntaxiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que Wittgenstein a toujours considéré que là où la pensée philosophique s'empêtre dans des difficultés sans parvenir à en sortir, une présentation, c'est le terme Darstellung, une présentation de la syntaxe, une présentation de la grammaire de notre langage, opérée au moyen d'un symbolisme adéquat, doit être à même de clarifier cette syntaxe, cette grammaire, et ainsi de dissoudre les difficultés philosophiques considérées. Par sa configuration visuelle, la notation de la syntaxe que constitue cette présentation doit faire voir à même les symboles qu'elle emploie ce qu'il en est du point problématique, à savoir, c'est la position radicale de Wittgenstein, à savoir qu'il ne s'agit que d'illusions de problèmes lorsqu'on a affaire à des problèmes philosophiques. À l'impression, si fréquente en philosophie, d'avoir affaire à des entités mystérieuses comme l'esprit, la signification, l'intention, la sensation, etc., des entités qui échapperaient à la prise de nos capacités cognitives et qui résideraient dans une profondeur qui nous est dissimulée, Wittgenstein oppose donc l'idée que la solution des difficultés philosophiques est en réalité étalée sous nos yeux, depuis longtemps déjà, mais que nous ne savons pas la voir et que c'est pour cette raison que nous croyons avoir affaire à des problèmes insolubles. En digne héritier aussi bien de Frege et de son idéographie que de Boltzmann et de ses modèles, ainsi que de Goethe et Spengler et de leur morphologie, Wittgenstein croit beaucoup au pouvoir d'élucidation de la visualité et de la mise en ordre, eine Ordnung, c'est un terme qu'il utilise fréquemment, la mise en ordre des choses qui se montrent dans la visualité. Le salut philosophique se situe pour lui dans l'élément de la vue. Une mise en ordre visuelle adéquate doit fournir la solution et apaiser l'entendement troublé par les problèmes philosophiques. La notation, et ce que je vous dis là serait déjà valable pour le Tractatus, la notation que constitue un symbolisme, dans le Tractatus ce serait le symbolisme logique, est ainsi destinée à nous apprendre à voir, à modeler et éduquer notre regard, de façon à ce qu'il discerne ce qu'il ne parvenait pas à voir et saisisse que la difficulté apparente n'était qu'un effet de surface, comme une illusion d'optique, il utilise cette expression à ce sujet-là, une illusion d'optique due à une façon trompeuse de considérer notre langage. La notion de présentation synoptique, qui apparaît chez Wittgenstein au tout début des années 30, en 1930 précisément, doit d'abord et avant tout être appréhendée comme une forme en laquelle se réalise cette pratique et cette conception de la philosophie. Plus exactement, elle est présentée dès 1931 comme la conception fondamentale qui motive la construction des multiples symbolismes que Wittgenstein a imaginés dès lors. C'est le sens du fameux paragraphe 122 des recherches philosophiques que l'on cite souvent lorsqu'on s'intéresse à cette notion. Je le cite, je l'ai fait figurer dans mon handout. L'une des sources principales de nos incompréhensions est que nous n'avons pas une vue synoptique de l'emploi de nos mots. Notre grammaire manque de caractère synoptique. La présentation synoptique nous procure la compréhension qui consiste à voir des relations, d'où l'importance qu'il y a à trouver et inventer des maillons intermédiaires. Le concept de présentation synoptique a pour nous une importance fondamentale. Il désigne notre façon de présenter, de voir les choses. S'agit-il d'une conception du monde ? Alors, je cite le texte, reste à le comprendre évidemment, et la suite de l'exposé essaiera de le faire. Mais dans l'immédiat et minimalement, on voit que l'importance de la présentation synoptique tient à ce qu'elle détermine à la fois le diagnostic, le type de diagnostic que propose Wittgenstein au sujet des problèmes philosophiques, et le mode d'intelligibilité qui est requis pour résoudre, dissoudre, dirait Wittgenstein, ces problèmes. Autrement dit, la présentation synoptique statue sur la nature de la philosophie, qu'est-ce que faire de la philosophie, en quoi consistent les énoncés produits par les philosophes, et le type de compréhension que l'on peut espérer obtenir des problèmes et des thèses philosophiques. Mais évidemment, ces quelques remarques préliminaires soulèvent en réalité autant de questions qu'elles éclairent la notion qui nous intéresse aujourd'hui. D'abord, je formule quelques-unes de ces questions, qui seront celles auxquelles j'essaierai de répondre, quel rapport entretient ce mode de présentation, Wittgenstein parle d'Arstellungsform, à propos de la présentation synoptique, avec celui qui se trouve dans le Tractatus, c'est-à-dire avec la notation verifonctionnelle, la notation VF, qu'elle prenne la forme des tables de vérité ou celle de la notation AB. J'aimerais souligner à cet égard la très forte continuité qui unit les réflexions de 1930, conduites au sein de ce qu'on a intitulé les remarques philosophiques, qui conduit donc des remarques philosophiques à celles du traité de 1921, à savoir cette même préoccupation de rendre visible la topologie propre à l'espace logique, à même un symbole. Mais il faudra aussi mettre en évidence la spécificité de la notion telle qu'elle réapparaît un an plus tard, en 1931, et qui rompt en profondeur avec la conception issue du Tractatus. Il y a, dans ce passage de 30 à 31, sans doute un moment très important dans l'évolution wittgensteinienne. Il faudra essayer de comprendre en quoi elle consiste. On peut dire dès maintenant que c'est le passage d'une compréhension dogmatique à une compréhension non dogmatique de la pratique de la philosophie. Alors, il s'agira là aussi de comprendre ce qu'il faut entendre par ces deux expressions. Deux points me retiendront à cet égard, au sujet de cette évolution de 30 à 31. D'abord, la promotion de la relation de ressemblance et son rôle dans le rejet par Wittgenstein de toute attitude dogmatique hors de sa pratique de la philosophie. Ensuite, le changement de statut et d'emploi du symbole que constitue la présentation synoptique par rapport au symbolisme forgé jusqu'en 1930 et en particulier la dimension esthétique du symbole de la présentation synoptique telle qu'elle est comprise à partir de 31. Alors, pour que vous ayez une idée quand même de ce dont il s'agit, j'aimerais commencer par insister en donnant quelques exemples, sur la diversité des applications que recouvre le même terme de présentation synoptique. Il faut souligner d'emblée combien il serait vain de chercher un sens univoque et parfaitement délimité de la notion à la notion de présentation synoptique. C'est que Wittgenstein la considère bien, comme une façon de voir les choses. Hein. Une façon de voir les choses qui détermine, comme il le dit dans des textes du début des années 30, qui détermine le point de vue d'où il veut considérer le langage, et non pas comme un procédé unique qui définirait une méthode systématique, hein, un procédé qu'il s'agirait de répéter simplement. Malgré cette diversité, on peut néanmoins dégager trois formes principales en lesquelles la présentation synoptique se réalise et dont l'examen me permettra de préciser dès maintenant ce qu'on doit entendre par cette expression. La présentation synoptique peut d'abord viser à dissoudre l'impression qu'il existe une essence du langage, qu'il s'agisse de celle du langage en général ou de celle d'un emploi particulier. Elle procède alors par variation, en présentant des cas à la fois apparentés et différents de notre langage, respectivement des cas apparentés ou différents de l'emploi que l'on considère et que l'on examine. Les très nombreuses fictions de tribus, célèbres chez Wittgenstein, possédant des langages différents du nôtre, relèvent de cette fonction. Il s'agit de se défaire de l'impression que notre langage réaliserait parfaitement une essence du langage, tandis que tout autre, moins complexe que le nôtre, serait un langage incomplet. Si l'on imagine par exemple une tribu dont les échanges verbaux ne consistent qu'en ordre, et même en ordre ayant une fonction très précise, par exemple envoyer des groupes d'hommes en différents endroits, imagine Wittgenstein, nous ne pourrons nous empêcher de considérer cela comme un langage, certes rudimentaire, mais complet et satisfaisant dans son ordre. La présentation synoptique peut également opérer la substitution locale d'une notation nouvelle à une certaine forme de notre langage, afin de mettre au jour une différence grammaticale que cette forme dissimule. Pour reprendre un exemple qui est sans cesse invoqué par Wittgenstein, l'énoncé « la rose est rouge », dit-il, peut nous laisser une impression de malaise dans la mesure où il semble identifier la fleur à la couleur, ce que nous ne voulons évidemment pas faire avec cet énoncé. La raison du malaise est que le même mot « est », le même signe, peut exprimer aussi bien l'identité que l'attribution. Un bon moyen de se défaire du malaise consiste à utiliser un symbole différent pour chaque usage de « est », afin que les deux règles d'emploi du mot ne se confondent plus dans le même symbole. Et Wittgenstein propose, pour cet exemple précis, de substituer au seul mot « est », par exemple, le signe de la théorie des ensembles, de l'appartenance d'un élément à un ensemble, d'une part, et d'autre part, le signe de l'égalité mathématique. Donc, substituer deux symboles au seul symbole « est », afin que les règles des deux emplois du mot ne se confondent plus dans le même symbole. Au moyen de la notation alternative, la présentation synoptique, selon Wittgenstein, permettrait d'évacuer purement et simplement un ensemble de symboles de notre langage, symboles qui nous troublent par leur conformation même. Enfin, elle peut mettre en évidence la communauté de différents cas. Par exemple, on peut comparer l'application à la réalité des différents ensembles que forment respectivement nos propositions de couleur, nos énoncés chronométriques, nos énoncés relatifs à la mesure de la spatialité ou à celle de la température, etc., à celle d'une règle graduée, propose Wittgenstein. En effet, de même que la règle graduée n'attribue à chaque fois qu'une mesure à la réalité, une proposition appartenant à l'un des types d'ensemble de propositions évoquées ne peut donner à la réalité qu'une propriété à la fois. Ainsi apparaît une parenté des différents types d'énoncés mentionnés. La comparaison permet donc, la comparaison avec une règle graduée, permet donc de ne plus redouter que des énoncés de mesure auxquels nous n'avions pas songé jusqu'à maintenant se présentent sans que l'on sache selon quelles règles les appliquer. La comparaison dégage un trait commun à une famille de cas et dissout ainsi, dit Wittgenstein, l'angoisse d'être privé de règles pour l'un quelconque de ces cas. Alors, au-delà des différences de ces trois formes de réalisation, deux propriétés se dégagent. D'abord, le procédé qui réalise la forme de présentation que constitue la présentation synoptique est destiné à chaque fois à permettre de voir adéquatement les règles qui sont celles de notre langage, c'est-à-dire respectivement, sans les sublimer en une essence, sans les confondre les unes avec les autres, sans craindre d'en être dépourvu. En outre, il est manifeste que le regard modalisé par la présentation synoptique saisit les choses du point de vue de leur ressemblance et de leur dissemblance. Et encore une fois, cela définit, je crois, une rationalité à part entière qu'il s'agit de comprendre, ce qui suppose une conception originale aussi bien de ce que sont les problèmes philosophiques que de leur compréhension et de leur résolution. Alors, pour pousser plus avant ces remarques, il faut répondre, je crois, à cette question : pourquoi accorder tant d'importance à la vision des ressemblances et des dissemblances ? Et avant tout, pourquoi privilégier ces deux notions de ressemblance et de dissemblance ? Ce qui me conduit au deuxième point. Le recours à la théorie logique des relations peut nous porter d'emblée au cœur de la notion de présentation synoptique. Il faut sans doute distinguer les trois types de relations suivants. La représentation d'abord, songeons au cas d'une image bidimensionnelle dans l'espace de laquelle une forme tridimensionnelle est projetée. La prescription ensuite, par exemple celle qu'un ordre énonce. La ressemblance enfin, et on peut penser ici à l'exemple paradigmatique, cher à Wittgenstein, de la ressemblance de deux visages. Une propriété en particulier distingue le troisième des deux premiers de ces types. Il s'agit de la symétrie. Il est certes concevable que deux objets se représentent l'un l'autre. On pourrait imaginer un cas, ce que l'on appelle une maquette, par exemple, peut désigner aussi bien un prototype industriel dont la voiture réelle devra fournir la reproduction à une échelle supérieure, que la reproduction en miniature d'une voiture que les enfants se plaisent à reconstituer. Mais on a alors affaire à deux relations de représentation distinctes, chacune étant asymétrique et non à une unique relation symétrique. Il suffit pour s'en convaincre d'évoquer l'un des nombreux cas dans lesquels l'un des termes reliés n'a que le statut de représenté ou que le statut de représentant, comme l'illustre très bien le cas de l'image. Le paysage réel qui est peint ne représente pas le tableau peint. L'asymétrie, hein, l'apostrophe asymétrie, caractérise tout autant la relation de prescription. L'action exécutée en réponse à l'ordre qui la prescrit ne prescrit pas celui-ci. Mais il est tout aussi clair que la relation de ressemblance est symétrique quant à elle. De deux visages qui se ressemblent, je ne peux dire que l'un ressemble à l'autre sans dire par là même que celui-ci ressemble au premier. La propriété de ressemblance est donc essentiellement, pourrait-on dire, à double sens, et la même chose vaut également pour la dissemblance. C'est un premier point. Une seconde caractéristique découle de la première. Le caractère asymétrique des relations de représentation et de prescription confère à chaque fois un primat normatif à l'un de leurs termes. Le contenu de l'ordre doit d'abord être déterminé pour qu'il puisse même y avoir quelque chose comme une action qu'il exécute. Et l'original doit d'abord être choisi pour qu'on puisse même se proposer d'essayer de le représenter. Corrélativement, l'ordre constitue l'étalon à l'aune duquel évaluer toute action qui se présente comme son exécution et l'original, l'étalon d'évaluation de tout ce qui peut prétendre le représenter. Les relations de représentation et de prescription sont donc normatives au sens où, une règle de projection étant établie, elle détermine un critère de correction, l'original à représenter, respectivement l'action à exécuter. Une représentation est ainsi plus ou moins exacte ou réussie, qu'il s'agisse d'un portrait ou d'une carte géographique, et une action exécutée en réponse à un ordre est ou n'est pas la bonne, la bonne action. On a donc affaire ici à des évaluations de correction. Or, il n'y a rien de tel dans le cas de la ressemblance. D'une part, l'un des deux visages qui se ressemblent ne constitue pas nécessairement un original en quelque sens que ce soit, et cela en raison de la propriété de symétrie de la relation de ressemblance. D'autre part, on ne dira pas si l'on découvre un visage qui est semblable à un autre qu'il est réussi ou fidèle. En d'autres termes, on ne dira pas qu'un visage dissemblable d'un autre présente un cas de ressemblance raté. Bref, être plus ou moins ressemblant ne repose pas sur un critère de plus ou moins grande correction. Ou alors, il faut ajouter à la relation de ressemblance une exigence qui relève précisément de la représentation. Par exemple, afin de tourner un film sur la vie de John Cassavetes, un réalisateur choisira sans doute un acteur qui ressemble suffisamment à celui-ci, mais il s'agit alors d'utiliser la ressemblance à des fins de représentation. De même, on dira qu'une imitation est ratée si l'imitateur prétendait représenter quelqu'un. Or, la ressemblance par elle-même ne prétend à rien. C'est qu'il est très différent d'être frappé par la ressemblance d'une personne que l'on croise dans la rue avec quelqu'un que l'on connaît, ce qu'on appelle parfois les faux airs, et d'assister au spectacle donné par quelqu'un qui prétend imiter certaines personnes. Ce qui me conduit au point suivant, ressemblance et affirmation. Alors je ne soutiens évidemment pas qu'on trouve chez Wittgenstein une théorisation de la notion de ressemblance comme celle que je viens de vous proposer. Et sans doute aurait-il même été assez réticent à l'égard de délimitations conceptuelles aussi tranchées. Néanmoins, les caractéristiques évoquées constituent des aspects importants de sa notion de présentation synoptique ainsi que des raisons du rôle qu'il accorde à celle de ressemblance et de dissemblance. Dans ces termes, c'est « Ähnlichkeit » et « Unähnlichkeit ». Je m'avancerai d'ailleurs un peu plus encore. La promotion que connaissent ces notions à partir du début des années 1930 vise justement à prémunir la présentation, la Darstellung de la grammaire à laquelle aspire Wittgenstein, des deux écueils que constituent selon lui les projets respectifs d'une présentation représentative et d'une présentation prescriptive de la grammaire de notre langage. Le premier reviendrait à considérer le symbole au moyen duquel la présentation synoptique est constituée comme la représentation de la grammaire, c'est-à-dire comme un symbole en l'espace duquel la grammaire se projetterait selon une méthode dont l'intérêt serait de faire apparaître clairement ses dimensions. Et je crois que la première occurrence de la notion de présentation synoptique, en 1930 dans les Remarques philosophiques, relève de cette conception-là, hein, une conception représentativiste de la présentation synoptique. Or, Wittgenstein dit très clairement que le schéma synoptique qu'il construit n'affirme rien au sujet du langage et, dit-il, je le cite, ne peut donc pas être faux. Le second consisterait au contraire à considérer le symbole de la présentation synoptique comme une prescription adressée à notre langage quant à la grammaire qui devrait être la sienne. Cela revient à prendre, j'expliciterai cette notion un peu plus loin, les objets de comparaison comme des études, je cite Wittgenstein ici, hein, dans les recherches philosophiques, des études préparatoires pour une réglementation future du langage, ce que Wittgenstein rejette expressément. Mais alors, pourquoi et comment éviter ces deux écueils? Ce qui est tout à fait remarquable et dangereux aux yeux de cet auteur est que dans les deux cas, la présentation synoptique produirait des affirmations, Behauptungen, affirmations respectivement sur ce qu'est notre grammaire, si on songe à la représentation, et sur ce qu'elle devrait être si on songe à la prescription, où l'on retrouve le caractère normatif des relations de représentation et de prescription que j'évoquais il y a un instant. Dès lors que la relation qui unit deux choses est normative et comporte à ce titre un critère de correction, elle donne lieu à des affirmations ou encore à des thèses. Or, si l'on veut bien prendre au sérieux cette exigence dont on peut certes se demander comment la satisfaire, il faut reconnaître que Wittgenstein prétend développer une pensée qui ne produit aucune thèse. Autrement dit, et ce point me paraît essentiel, il ne s'agit pas pour lui de formuler des affirmations un peu moins, ni même beaucoup moins affirmatives que celles que l'on rencontre en général en philosophie, mais au sens strict de formuler des énoncés qui relèvent d'une autre logique que celle de l'affirmation. Et précisément, que la présentation synoptique se constitue au moyen de la relation de ressemblance plutôt que de celle de la représentation ou de la prescription, explique à mon sens comment une telle exigence peut être satisfaite selon Wittgenstein. Alors, on pourrait discuter de la caractère satisfaisant de la solution, mais en tout cas, je crois que c'est là que se trouve la solution telle que la conçoit Wittgenstein. Voilà pourquoi il oppose si souvent l'activité de la comparaison, Vergleichen, à celle de l'affirmation, Behaupten, lorsqu'il s'agit de caractériser sa pratique de la philosophie. C'est que la première porte l'attention sur des différences et des ressemblances. On touche ici l'un des aspects majeurs du caractère asystématique de la pensée de Wittgenstein, puisqu'elle renonce au fond dès le départ à cette condition minimale qui est pour un système philosophique le fait d'énoncer des affirmations. Il écrit dans un texte du début des années 30 où il traite de cette notion de la présentation synoptique, ce texte que j'ai reproduit toujours à la page 1, c'est en ce sens que l'on peut dire que nous n'avons pas de système, ce qu'il veut dire qu'il n'y a personne qui puisse tomber ou non d'accord avec nous. Autrement dit, il ne profère, prétendument en tout cas, aucune affirmation. Mais évidemment, une fois souligné le caractère non thétique de la comparaison, il reste à déterminer le type d'intelligibilité qui est ainsi circonscrit. On ne saurait trop souligner à cet égard l'une des remarques les plus insistantes qui accompagne l'élaboration de la notion de présentation synoptique au début des années 1930. J'en présente deux exemples qui sont dans le handout. Donc le premier se trouve en bas de la page 1. Je cite, tel est le point de vue duquel nous voulons considérer le langage. Nous ne voulons pas dogmatiser, mais laisser le langage être tel qu'il est et le mettre en parallèle avec une image grammaticale dont nous maîtrisons complètement les propriétés. Nous construisons pour ainsi dire un cas idéal, mais sans la prétention qu'il s'accorde avec quoi que ce soit. Mais nous le construisons seulement en vue d'obtenir un schéma synoptique avec lequel comparer le langage, quelque chose comme un aspect qui n'affirme rien encore et qui ne peut donc pas être faux. Et seconde citation, les deux textes datent de 1932. Je me contente d'attirer l'attention, sur la page 2. Voilà. Je me contente d'attirer l'attention de l'autre sur ce qu'il fait véritablement et je m'abstiens de toute affirmation. Tout doit alors se jouer dans la grammaire. Ce dont il s'agit est de faire des distinctions essentielles, fondamentales. Au sujet de déclarations comme celle-ci, on remarquera d'abord qu'elles trouvent un écho direct au sein des recherches philosophiques, que l'on pense, je pense notamment ici, aux paragraphes 124, 126 et 131, remarque dont les deux citations préparent sans doute la voie. La présentation synoptique telle qu'elle est pensée par Wittgenstein à partir de 1931 est étroitement liée au projet d'une pensée non dogmatique. De son point de vue, les problèmes et les thèses philosophiques ne sont pas suscités par et ne portent pas vraiment sur la réalité, mais ont leur origine dans des exigences illégitimes dont le philosophe fait porter le poids à son propre langage. Exigences illégitimes, car ce qui les motive est une vision erronée de celui-ci. Par exemple, l'idée de langage et de sensation privée n'aurait jamais, sans doute jamais perturbé les philosophes s'ils n'avaient pas subi les effets de l'analogie apparente qui est inscrite dans les formes d'expression même de notre langage entre les façons respectives dont nous employons les mots « sensation » et « objet ». Tous deux sont des substantifs et on peut les avoir tous les deux. Je pense notamment à un exemple que Wittgenstein donne dans le cahier bleu. Il compare à avoir une douleur dans la bouche et avoir une dent en or dans la bouche. Effectivement, on peut dire que dans les deux cas, on a cela, que dans les deux cas, c'est dans la bouche, que dans les deux cas, on peut dissimuler cela. Et cette analogie des deux grammaires respectives des deux termes en question peut conduire à assimiler les deux cas en question. La vision morphologique et antidogmatique de Wittgenstein consiste simplement à rapprocher, par exemple, les deux cas de la couleur et de l'objet matériel, et à rappeler que nous disons deux livres différents ont la même couleur, tandis que nous faisons une distinction entre « c'est la même chaise que celle que j'ai vue il y a une heure » et « ce n'est pas la même chaise, mais une autre qui est exactement pareille ». Une fois ce rapprochement effectué, il s'agit de laisser les ressemblances et les dissemblances jouer d'elles-mêmes entre ces deux cas, celui de l'objet et celui de la couleur, et le troisième, celui de la sensation. Comme le dirait Goethe, auquel Wittgenstein pense souvent lorsqu'il élabore sa notion de présentation synoptique, on se contente de tenir les deux descriptions l'une contre l'autre et la comparaison se fait d'elle-même. Le caractère non affirmatif du geste constitutif de la présentation synoptique réside donc ici précisément dans le fait qu'on ne statue pas sur la façon dont le terme sensation doit être employé, par exemple en affirmant qu'il doit l'être comme celui de couleur, au motif que dans l'usage ordinaire, les critères d'identité du premier ressemblent fortement à ceux du second, tandis que ceux du terme objet se distinguent nettement de ceux de l'un et de l'autre. Le fait que la douleur soit présente en deux personnes distinctes n'est pas plus une raison suffisante pour dire qu'il y a deux douleurs que ça ne l'est pour dire qu'une couleur présente à la surface de deux livres constitue en réalité deux couleurs différentes. Il rappelle simplement quelques règles d'usage qu'il juxtapose à notre langage, sans rien affirmer quant aux conséquences qu'il convient d'en tirer. On pourrait dire encore qu'il se contente de souligner un trait morphologique grammatical. Mais attention, il ne faudrait pas comprendre ce rappel comme une suggestion, c'est-à-dire au fond comme une affirmation atténuée ou déguisée qui se distinguerait d'une affirmation franche et directe uniquement par le souci de ne pas vexer l'interlocuteur. Ce serait se méprendre sur la conception tout à fait particulière que Wittgenstein se faisait de la nature des thèses et des problèmes philosophiques. De son point de vue, le trouble philosophique naît de l'emprise que possède sur la pensée une analogie et l'aspect qu'elle donne à l'usage d'une expression. Pour cette raison, je le cite, c'est un texte qui se trouve dans le handout, « les questions philosophiques sont apaisées par le fait de retirer à la forme de présentation de notre langage un aspect qui nous trouble. » Voilà un diagnostic bien particulier. Aucune affirmation contraire n'est donc susceptible d'amener le philosophe à renoncer à ses propres affirmations, ne serait-ce que parce qu'en réalité, il ne produit pas, contrairement aux apparences, d'authentiques affirmations, c'est-à-dire des assertions qui pourraient prétendre énoncer des vérités sur des faits. Mais le philosophe formule en réalité des décisions grammaticales, comme le dit souvent Wittgenstein, c'est-à-dire des règles qui portent sur la façon d'employer les expressions qui lui posent problème. Par conséquent, seul l'effet produit par un aspect différent peut modifier la pensée du philosophe, et en conséquence, tout ce que l'on peut faire pour dénouer la crampe philosophique est de proposer des aspects qui auront la vertu de, dit Wittgenstein, dessiner la physionomie de chaque erreur. Et un aspect n'affirme rien par lui-même. Comme on le voit, la ressemblance et la dissemblance constituent l'élément de la philosophie, et apparaît ici, sans doute, toute l'importance de la pensée morphologique de Goethe et de Spengler pour Wittgenstein. On peut comprendre dès lors que Wittgenstein confère une place centrale à la visualité. Le travail sur les aspects et le rejet de toute affirmation y trouvent à exprimer leur nature morphologique. Mais comment faut-il caractériser plus précisément cette place de la visualité? Elle se monnaie, je crois, en deux conceptions de la présentation synoptique, qui sont souvent assimilées, mais qui, à mon avis, sont bien distinctes, et c'est ce que j'aimerais mettre en évidence maintenant, notamment en prenant le troisième point, hein, la présentation synoptique dans les remarques philosophiques de 1930, la présentation de l'essence. Une question est évidemment de savoir si la simple apparition du terme « présentation synoptique » indique que l'idée d'une philosophie renonçant à toute affirmation est par là même adoptée. Je soutiendrai que non, au motif que la présentation synoptique n'a d'abord été qu'un aménagement de la pensée du Tractatus. Alors, sans exposer le chemin sinueux qui conduit Wittgenstein de 1921 à 1930, on peut néanmoins rappeler que dans le Tractatus, il adopte l'idée d'un unique espace logique formé de l'ensemble des choses et de leurs combinaisons possibles. La vérité de chaque proposition élémentaire dans ce texte donne à chaque autre proposition élémentaire la probabilité de 1 sur 2, ce qu'exprime la thèse de ce que Wittgenstein appelle l'indépendance des propositions élémentaires. Autrement dit, deux propositions élémentaires ne peuvent être liées par une relation de conséquences logiques, ce dont rend parfaitement compte le symbolisme qui est adopté à l'époque, à savoir le symbolisme vrai-faux, VF, hein, et notamment le symbolisme VF sous sa forme tabulaire. Or, l'une des évolutions de Wittgenstein en 1929-1930 aura consisté à reconnaître que les propositions élémentaires entretiennent des relations de conséquences logiques et ne sont donc pas logiquement indépendantes. Le cas cardinal est ici celui des propositions renfermant un prédicat de couleur, dont le traité de 1921 considère qu'elles possèdent nécessairement une complexité interne puisqu'elles entretiennent des relations logiques. Par exemple, que tel point du champ visuel soit rouge exclut le fait qu'il soit vert. Mais Wittgenstein en vient peu à peu à reconnaître que de telles propositions peuvent être élémentaires. Se pose alors la question de la notation des relations de conséquences qu'elles entretiennent. Manifestement, le schéma, c'est un terme qu'il utilise déjà en 1921, le schéma tabulaire de la notation VF est incapable d'une telle Darstellung, d'une telle présentation. Et c'est évidemment un problème immense pour une pensée qui soutient que la clarification logique des pensées exige une manifestation immédiatement visible à même les symboles de la notation choisie des relations logiques des propositions concernées. Et le problème est d'autant plus délicat qu'il faut désormais admettre qu'il n'y a pas un seul espace logique, comme cela a été soutenu en 1921, mais des espaces logiques particuliers, comme celui des couleurs, celui de la vue, celui des sons, celui de la temporalité, etc. Si l'on reprend la distinction tractatuséenne centrale du signe et du symbole, hein, le premier désignant la dimension sensible du second, et celui-ci le signe en tant qu'il est employé selon une syntaxe. Si on reprend donc cette distinction, par exemple pour montrer les relations logiques d'un ensemble de propositions, la question devient celle-ci. Quelle notation sera à même de montrer les propriétés logiques des propositions élémentaires de couleur, par exemple, et ainsi de dessiner pour la vue même, la topologie de l'espace logique des couleurs, hein, la topologie de ce que Wittgenstein appelle le Farbenraum. Eh bien, la notion de présentation synoptique a été pensée d'abord et avant tout comme une solution à ce problème. Et à cet égard, en 1930, elle constitue avant tout un réaménagement de la notation logique de 1921. Si l'on revient au manuscrit 108 et aux remarques philosophiques, qui est composé notamment à partir de ce manuscrit, il s'avère, si on regarde l'ordonnancement initial des remarques dans ce manuscrit, il s'avère que le texte qui ouvre les remarques philosophiques est la suite immédiate dans le manuscrit des réflexions conduites par Wittgenstein sur la bonne présentation des relations constitutives de l'espace des couleurs. Réflexions qui, dans les remarques philosophiques, n'interviennent qu'au chapitre 21. La présentation synoptique doit donc être pensée, si l'on reprend le paragraphe 1 des remarques philosophiques, comme un mode d'expression fournissant une analyse logique d'autant plus clarifiante que les règles grammaticales qu'elle vise à exhiber apparaissent mieux dans le phénomène extérieur du symbole, dit Wittgenstein. Et c'est dans cette perspective que sont comparés les divers symbolismes, que sont l'octaèdre des couleurs, la ligne droite, toujours destinée à représenter l'espace des couleurs, ou encore l'image de l'angle. Il s'agit ainsi, tout comme en 1921, de réussir à montrer à même le symbole la forme logique d'un ensemble de propositions. Et là, on trouve la grande tradition qui s'inaugure chez Leibniz, hein, qui sera reprise par Frege, évidemment, et son idéographie, et qui se poursuit encore dans le Tractatus, et je crois encore ici en 1930. Alors bien sûr, une fois qu'on a rappelé cela, on peut vouloir insister sur la continuité entre l'année 1930 et l'année 1931, en remarquant qu'à cette dernière date, Wittgenstein parle toujours de la présentation synoptique comme d'un moyen, je cite, « d'aiguiser notre regard pour une relation formelle, une relation interne ». et qu'elle remplit l'office par ce moyen de nous fournir une compréhension des perplexités philosophiques. Si on en reste là, effectivement, il y a une continuité très forte. Mais quelques faits interdisent de s'en tenir là. D'abord et avant tout, le choix d'une présentation synoptique parmi d'autres possibles est guidé et évalué par les capacités symboliques du signe en 1930, c'est-à-dire celui-ci est considéré, le signe est considéré quant à ses capacités à figurer sur le mode de l'ostension l'espace logique, et selon la conformation sémiotique qui est la sienne, il le fait plus ou moins correctement. Alors qu'à partir de 1931, un objet de comparaison, c'est le terme utilisé dans le paragraphe 122, un objet de comparaison ne perd pas sa valeur du fait de ressembler à ce à quoi il est comparé. Wittgenstein dit explicitement le contraire. Ce n'est pas parce qu'un objet de comparaison ne ressemble pas à ce à quoi il est comparé qu'il perd sa valeur pour l'analyse philosophique. En outre, et corrélativement, Wittgenstein continue à adhérer à l'idée d'une essence logique du monde en 1930, essence qui forme en l'occurrence le critère d'évaluation de toute présentation synoptique. Les relations internes dans le symbolisme sont alors à penser comme le reflet de relations d'essence propres au monde que nous saisirions à même les symboles. Par conséquent, et enfin, Wittgenstein ne parle pas d'une simple relation de comparaison entre la présentation synoptique, songez à l'octaèdre des couleurs par exemple, une simple relation de comparaison entre la présentation synoptique et notre langage. Ou plutôt, cette relation de comparaison doit se résoudre en faveur d'une certaine présentation à l'exclusion des autres en raison de son adéquation supérieure. A constitué un mode de fonctionnement même de la présentation. La comparaison ne constitue pas le mode de fonctionnement de la présentation synoptique, alors que ce sera le cas à partir de 1931. Pour ces quelques remarques au moins, il faut situer, je crois, en 1931, une inflexion majeure du concept de présentation synoptique que j'ai commencé à exposer plus haut, et une inflexion majeure dans l'évolution philosophique de Wittgenstein. Alors, c'est cela que j'aimerais examiner de plus près à partir de maintenant. Et je prends le quatrième point de mon exposé. La présentation synoptique au sens des recherches philosophiques. Si on s'intéresse donc à la notion de présentation synoptique telle qu'elle apparaît à partir de 1931, deux modes de réalisation de cette notion se distinguent. Elle peut être obtenue d'abord, cette présentation, par regroupement de certains éléments de notre langage. Pensez à l'exemple que je donnais tout à l'heure du rapprochement des concepts de couleur, d'objet et de sensation, mais également par la construction de ce que Wittgenstein appelle un cas idéal, qu'il appelait également dans un des textes que je citais tout à l'heure une image grammaticale ou un schéma synoptique. Alors on a souvent tendance, quand on lit Wittgenstein, à ne considérer que le premier de ces deux types de réalisation. Je pense que c'est une erreur, car Wittgenstein a eu au moins aussi souvent recours au second, et c'est pour lui précisément qu'il a forgé le concept de jeu de langage, dont on sait l'importance qu'il a dans sa pensée. Avant d'être étendu à nos usages ordinaires effectifs eux-mêmes, ce concept de jeu de langage a en effet servi à désigner des cas artificiels auxquels comparer notre langage, cas qui se recommandent par leur simplicité et leur clarté. L'expression « présentation synoptique » renvoie alors aux objets de comparaison, Vergleichsobjekte, que fournissent ces cas, et non pas à l'ensemble formé de ces objets et de notre langage. Cette acception originelle du concept de jeu de langage doit sans doute beaucoup à la morphologie de Goethe. Dans certains des textes du début des années 30, Wittgenstein associe explicitement l'idée goethéenne d'un type, typus, et d'une image primitive, urbild, à celle de la construction du schéma synoptique. Et de même que chez Goethe, la plante originelle représente comme une matrice morphologique permettant de retrouver toutes les plantes par dérivation morphologique, le schéma synoptique, en l'occurrence donc un certain jeu de langage, doit reconduire, moyennant la construction de maillons intermédiaires, à l'ensemble de notre langage, ces formes intermédiaires mettant en évidence la ressemblance morphologique qui relie le cas idéal initial aux formes plus complexes. Or, les cas idéaux ne sont rien d'autre que ce que Wittgenstein appelle des jeux de langage. Et ce concept s'inscrit donc d'abord dans la dimension morphologique de sa pensée, dimension attachée aux aspects et à la relation de ressemblance et de dissemblance. Il est intéressant de relire à la lumière de cette remarque le texte canonique sur les jeux de langage que l'on trouve dans le cahier bleu de 1933-34. Les jeux de langage y sont définis comme, je cite, des formes primitives de langage. Et ils sont reliés, dit Wittgenstein, aux formes complexes de notre langage par l'ajout graduel de nouvelles formes. La pratique de la philosophie s'apparente alors au travail de dérivation, Ableitung, de dérivation morphologique goethéen, comme l'atteste le mode de composition même du cahier brun, qui date de 34-35, dont le début de la première partie des recherches garde des traces très appuyées. Il s'agit alors de partir d'une forme très simple de langage, et il reviendra à l'image augustinienne de jouer ce rôle similaire à celui de la plante originelle chez Goethe, et de la complexifier progressivement de façon à retrouver certaines de nos formes de langage. On comprend que Wittgenstein ait pu dire que l'idée goethéenne de plante originelle, je le cite, résout le problème de la présentation synoptique. Et là, il y a une parenté, à mon avis, très forte. Pour autant, la morphologie wittgensteinienne n'est pas celle de Goethe. Pour bien le comprendre, il faut souligner que les cas idéaux, que sont les jeux de langage, ont comporté deux fonctions distinctes et corrélatives dès leur invention, à partir de 1931. La première de ces fonctions est celle de principe de dérivation morphologique, c'est celle dont je viens de parler. Mais elle en suppose une autre. C'est celle de réalisation concrète d'une idée philosophique sous la forme d'un jeu défini par quelques règles simples et, dit Wittgenstein, parfaitement maîtrisées. Réaliser doit alors être entendu en deux sens corrélatifs. Au sens de rendre réel, sous une forme clairement visible, et par ce biais, c'est le second sens, d'amener celui qui est sous l'emprise d'une certaine image de la grammaire de son langage à se rendre compte que cette image n'est en définitive qu'un aspect du langage parmi d'autres. Autrement dit, à reconnaître, erkennen, c'est le terme qu'utilise sans cesse Wittgenstein, à reconnaître l'aspect de notre langage qui le fascinait. Ainsi, du Big Type Script, c'est un texte de 1933, à la première partie des recherches philosophiques, dans leur version finale de 1945, l'image augustinienne parcourt à chaque fois exactement le même trajet. On en expose d'abord la présence inconsciente au sein d'un propos non théorique qui se conforme à elle, c'est le récit autobiographique d'Augustin, puis elle est reconduite à une forme de notre langage dans laquelle elle trouve son origine et qui compte parmi celles qui constituent, dit Wittgenstein, l'image simple, la forme de présentation simple que notre langage donne de lui-même, il s'agit en l'occurrence de la forme des substantifs. Enfin, troisième temps, elle prend figure concrète en un jeu de langage, celui des maçons, celui des bâtisseurs. C'est ce jeu de langage qu'on trouve décrit au paragraphe 2 des recherches philosophiques. Ce trajet systématique, c'est très étonnant. Si vous prenez les textes de 32, 33 jusqu'au texte de 45, c'est exactement le même trajet qui est répété d'innombrables fois. Ce trajet systématique dessine le mouvement de conversion d'une image, Bild, en une présentation synoptique. Je cite un texte qui se trouve dans l'une des premières versions des recherches philosophiques. Nous nous libérons donc de l'emprise de l'idéal en reconnaissant qu'il est une image et en indiquant son origine. Comment en es-tu venu à cet idéal? À partir de quels matériaux l'as-tu formé? Quelle représentation concrète a joué le rôle de sa véritable image primitive? Nous devons nous demander cela, sans quoi nous ne pouvons nous libérer de son aspect inquiétant. Et Wittgenstein indique de façon énigmatique, entre parenthèses, esthétique. Alors je commenterai cette parenthèse un peu plus loin. Après la filiation avec l'Urbild goethéen, sans doute est-ce ici celle avec le modèle boltzmannien qui se fait jour et qu'il faut souligner. On sait l'importance, je n'ai pas le temps de développer ça aujourd'hui, mais c'est un point très important pour la lecture de Wittgenstein, on sait l'importance que Boltzmann a accordée au pouvoir de clarification visuelle pour la pensée, offert par le recours au modèle fait de bois, de métal ou de papier mâché pour la mécanique, ou encore aux maquettes en mathématiques et en géométrie. Le schéma du jeu de langage offre des ressources similaires. Sa clarté et sa simplicité, ce sont les termes qu'utilise Wittgenstein au sujet des jeux de langage, paragraphe 130 des recherches, résident dans sa capacité à rendre visible ce qu'il présente. Si on reprend le texte du cahier bleu, Wittgenstein dit au sujet des jeux de langage, je cite, « Nous voyons des activités et des réactions clairement dessinées et transparentes. » Au moins deux propriétés de la description des cas idéaux assure cette visibilité. Parce qu'évidemment, on peut se demander comment est-ce qu'une description d'un cas simple peut avoir la visualité que peut avoir une maquette, par exemple. Évidemment. Alors, je crois qu'il y a deux propriétés donc, de ces descriptions qui leur assurent leur visibilité. Ces deux propriétés, je les appellerais celles d'exhaustivité et d'exclusivité. Wittgenstein souligne en effet, dès le cahier brun de 34-35, que les jeux de langage qu'il décrit sont, je cite, des systèmes complets de communication humaine. Et ce même caractère de complétude sera énoncé au terme du paragraphe 2 des recherches philosophiques, un peu à la façon d'une clause de fermeture de la description. Il me semble que cette complétude est un réquisite de la seconde fonction des jeux de langage que j'ai soulignée. Être exhaustive et exclusive signifie pour la description être tel que tout ce qui est décrit l'est complètement, d'une part, et que tout ce qui n'est pas décrit n'appartient pas à ce qu'il est. Autrement dit, les scènes qui sont décrites sont des scènes en un sens sans arrière-plan. Les quelques gestes et proférations verbales très simples qui les constituent, Il s'agit bien de schémas synoptiques, hein, ça a le caractère schématique, sont tous à la surface de la description. De cette façon, la description de ces cas simples peut acquérir un pouvoir de visualisation et ainsi peut être conquise la synopticité de la présentation que constituent les jeux de langage. C'est exactement ce que dit le paragraphe 5 des recherches philosophiques que je cite, qui est à la page 2 toujours. On entrevoit peut-être, en examinant l'exemple du paragraphe 1, à quel point le concept de la signification d'un mot recouvre le fonctionnement du langage d'un rideau de brume qui en rend invisible une vision claire. Il fait allusion au concept de signification augustinien, qui est un concept excessivement simple. On dissipe ce brouillard en étudiant les phénomènes du langage dans les formes primitives de leur usage, qui permettent d'avoir une vue synoptique, Wiesen utilise le verbe « übersehen », une vue synoptique du but et du fonctionnement des mots. On pourrait dire encore que c'est en tant qu'elle est inconsciente que l'image peut acquérir la valeur d'une forme générale de présentation de notre grammaire. Dès lors qu'elle est réalisée concrètement, sous la forme visible d'un cas idéal, comme celui proposé par le jeu de langage des bâtisseurs, on peut discerner l'aspect que l'on a privilégié, le considérer pour ce qu'il est, et voir ce qu'il recouvre exactement. Et on peut alors utiliser le cas idéal en question comme objet de comparaison et principe de dérivation. La présentation synoptique opère précisément cette conversion d'une image en un objet de comparaison. D'une représentation trop simple de notre langage, l'image augustinienne peut ainsi devenir la représentation d'un langage plus simple que le nôtre. Et ce point me paraît essentiel pour trois raisons. D'abord parce qu'il précise la nature de la compréhension que l'on peut escompter de la présentation synoptique et donc son mode propre d'intelligibilité. Dans le paragraphe 122 que je citais tout à l'heure, il y a ce terme de compréhension. La question est évidemment de savoir de quelle nature est cette compréhension. Elle est de nature morphologique et elle consiste à passer de l'image comme présentation de l'essence du langage en la présentation synoptique comme mise en évidence de ressemblance. Ou encore à saisir les relations internes, comme à l'époque du Tractatus, comme des relations formelles saisir désormais les relations internes comme des relations formelles de ressemblance et non, comme à l'époque du Tractatus, comme des variations dont le domaine est fixé par une quelconque essence. Bref, la relation interne devient morphologique. Et on peut comprendre l'invocation par Wittgenstein de l'exemple du visage pour illustrer ces relations internes morphologiques. Une conséquence importante est ensuite que l'espace de variation des langages possibles n'est plus celui délimité par l'espace logique tractatuséen, y compris sous sa forme amendée de 1930, est déterminé par les formes des objets, mais celui des variations morphologiques possibles, qui réunit les différents langages possibles par des relations de ressemblance et de dissemblance, et non par une commune et nécessaire forme logique, espace qui est en droit sans limite et qui n'est fondé dans aucune substance du monde. Il est ce que Wittgenstein a appelé au début des années 30, je cite, le site naturel des formes, die natürliche Umgebung der Gestalten, l'arrière-plan des jeux semblables et apparentés, je le cite toujours, à notre langage. Ou encore, si l'on en croit Weismann qui retranscrit, je cite, l'arrière-fond infini de possibilités dont notre langage se détache. Enfin, troisième point important, parce qu'en cette conversion s'accomplit le passage, si important dans l'évolution de Wittgenstein et la constitution de sa seconde philosophie, d'une vision dogmatique à une vision non dogmatique de voir les choses en général et le langage en particulier. Et à cet égard, et pour toutes ces raisons, il semble difficile de tenir pour identique à celui de 1930 le concept de présentation synoptique qui émerge en 1931. Alors, j'aimerais ajouter deux compléments à ce qui précède. D'abord en disant qu'un aspect ne peut pas être faux en lui-même. Il est trompeur tout au plus, où l'on retrouve son caractère non affirmatif. Par exemple, l'aspect de la grammaire du concept de douleur qui était éclairé, souligné par la ressemblance avec l'emploi d'un nom d'objet, la dent en or, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, cet aspect-là n'est pas erroné, il est seulement fallacieux parce qu'il suggère. De même, voir la proposition sous l'aspect d'une image, voir le langage sous l'aspect d'un calcul, voir la signification sous l'aspect de la désignation nominale, etc., consiste simplement à saisir une ressemblance entre différents cas. Plus encore, un aspect peut éventuellement être éclairant, que l'on pense à la comparaison du langage avec le calcul ou le jeu. Le danger réside précisément en la réification de la ressemblance en une essence partagée par les cas qui se ressemblent. Je donne une citation qui va dans ce sens. C'est vrai, une unité de mesure est bien choisie si elle exprime par des nombres entiers la plupart des longueurs que l'on veut mesurer par son moyen. mais le dogmatisme affirme que chaque longueur doit être un multiple entier de l'unité de mesure. Le dogmatisme est bien ce que Wittgenstein appelle, dans le même texte, la tendance à généraliser le cas clair. Son caractère clarifiant est bien souvent ce qui nous conduit à faire d'un aspect une image générale. Deuxième complément, il faut ensuite affronter la question de savoir comment le cas idéal est capable d'opérer son œuvre de clarification. Alors, quelques éléments de réponse sont fournis par un extrait d'un texte intitulé « Eine philosophische Betrachtung », qui est la traduction en allemand du texte de 34-35, le cas hébreu. Le texte que je cite fait suite à l'examen de divers cas d'application du terme « comparaison », examen destiné à supprimer l'impression qu'il doit exister une expérience spécifique qui serait commune à tous les cas et qui définirait l'essence de l'acte de comparaison. Je cite le texte avant de le commenter. On pourrait dire que l'on peut regarder les objets de deux façons. D'une part, de près, aus der Nähe. D'autre part, de loin, von weitem, et à travers une atmosphère étrange. Et nous avons trouvé que l'emploi effectif du mot comparaison est différent de celui que nous pensions voir de loin. Nous trouvons que ce qui réunit les cas de comparaison consiste en un grand nombre de ressemblances qui empiètent les unes sur les autres, et lorsque nous voyons cela, nous ne nous sentons plus contraints de dire qu'il doit y avoir quelque chose de commun à tous ces cas. Deux points méritent d'être soulignés ici. Le premier est que le regard modelé par la présentation synoptique ne se conquiert pas par une prise de hauteur à l'égard des choses que l'on regarde, comme on le dit souvent, mais au contraire par la proximité. Il faut regarder des cas singuliers précisément, dit Wittgenstein, « genau besehen », dit-il un peu plus haut, contrairement au regard de loin que l'on porte spontanément sur notre langage. En outre, le regard de loin est écarté au motif qu'il nous présente ce que nous voyons à travers une atmosphère étrange. Cette expression fait écho à ce que Wittgenstein a écrit quelques pages auparavant dans le même texte, lorsqu'il a revendiqué la nécessité d'examiner des langages beaucoup plus simples que celui des adultes, parce que celui-ci, dit-il, se présente à notre langage, c'est sich darstellt, se présente à notre langage comme une masse nébuleuse. Autrement dit, la présentation de langages qui ont la primitivité du langage des enfants permet de considérer peu de cas d'emploi langagier à la fois, et ainsi d'y voir plus clair. Alors plus exactement, Wittgenstein affirme qu'il faut réduire le nombre de types de mots considérés, par exemple de considérer que celui du substantif comparaison. Parce qu'alors, ce type de mots sautent aux yeux, et augenfällig, dit-il, et qu'on peut en prendre une vue d'ensemble, on peut les regarder avec exactitude et donc les soumettre à l'activité de l'Übersicht. Au total, ce texte tord donc le cou à deux éléments de la lecture classique de la présentation synoptique wittgensteinienne. Il ne s'agit pas de s'éloigner, mais au contraire de s'approcher. Il ne s'agit pas de multiplier les cas considérés, mais au contraire d'en réduire le nombre afin d'avoir affaire à une pluralité visuellement maîtrisable. Mais alors, comment les relations de ressemblance s'établissent-elles et en quoi la compréhension morphologique consiste-t-elle précisément? Il faut considérer maintenant, et pour finir, l'affinité du mode d'intelligibilité propre à la présentation synoptique avec la compréhension esthétique. Ce sera mon dernier point. La présentation synoptique comme symbole. De façon un peu énigmatique, Wittgenstein ponctuait l'une des remarques que je citais tout à l'heure en suggérant un lien entre le fait de reconnaître une image pour ce qu'elle est, à savoir un aspect, et le domaine de l'esthétique. C'est la parenthèse que je soulignais tout à l'heure. Peut-être y a-t-il ici un élément de réponse à la question que je posais à l'instant. On peut repartir du texte de juillet 1931, dans lequel on voit reparaître la notion de présentation synoptique sous le visage qu'elle aura dans les recherches. Wittgenstein ne la réutilise pas entre le texte des remarques philosophiques et ce texte de juillet 1931. Alors, je cite ce texte et ensuite je le commenterai. Il est reproduit dans le document que j'ai fait circuler. C'est en haut de la page 3. Notre langage est l'incarnation de vieux mythes. Et le rite des anciens mythes était un langage. Ce n'est pas une expérience, c'est une idée, Schiller. Et ainsi, le cœur indique une loi secrète, a-t-on envie de dire, de la réunion des faits qu'opère Fraser. Le vers est un vers tiré d'une élégie de Goethe, intitulée « La métamorphose des plantes », qui n'est pas le texte de « La métamorphose des plantes » qui constitue un texte de science naturelle. C'est un poème. Cette loi, cette idée, je peux la représenter maintenant dans une présentation synoptique par une hypothèse d'évolution, ou encore de façon analogue au schéma d'une plante, par le schéma d'une cérémonie religieuse, mais aussi par le groupement du matériau factuel seul. Le concept de présentation synoptique est pour nous d'une importance fondamentale. Et on, C'est un texte qui a été repris en partie dans le paragraphe 122 que je citais en commence. Il désigne notre mode de présentation, la façon dont nous voyons les choses. Une sorte de conception du monde, apparemment caractéristique de notre époque, Spengler. Cette présentation synoptique permet la compréhension qui consiste dans le fait que nous voyons des relations. De là l'importance de la découverte de maillons intermédiaires. Mais un terme intermédiaire hypothétique ne doit rien faire d'autre dans ce cas qu'orienter l'attention vers la ressemblance, la relation des faits. De même que l'on illustre une relation interne entre la forme d'un cercle et une ellipse en faisant passer progressivement une ellipse à l'état de cercle. Mais non pas pour affirmer qu'une certaine ellipse serait dans les faits historiquement provenue d'un cercle, hypothèse d'évolution, mais seulement afin d'affiner la saisie par notre regard, d'une corrélation formelle. Alors évidemment, une des questions que soulève la lecture du texte, c'est quelle est cette loi secrète ? Ou encore, comme le dit Wittgenstein ailleurs, cet esprit commun qui est censé indiquer le cœur formé des faits que Fraser rassemble, puisque ce texte est d'abord adressé au rameau d'or de Fraser. Et en quoi consiste cette indication dont parle Wittgenstein ? Alors peu avant le texte cité, Wittgenstein dénonce les errements liés à ce qu'il appelle la philosophie du comme-si, du als-ob. Je cite, je n'ai pas reproduit ce petit passage, je le cite, « La philosophie du comme-si repose entièrement sur cette confusion de l'image et de la réalité. » Alors, Wittgenstein fait ici référence, et je dois à Jean-Jacques Rosa d'avoir été relevé de mon ignorance sur ce point, il fait ici référence à l'œuvre du néo-kantien Hans Weinger, paru en 1911, s'appelle « La philosophie du comme-si », dans laquelle Weinger défend la thèse d'inspiration pragmatiste du fictionnalisme, thèse selon laquelle notre pensée aurait besoin d'utiliser des fictions dans sa vie épistémique aussi bien que pratique, afin de constituer la représentation qu'elle se fait de la réalité. Dieu, l'âme, l'atome seraient ainsi de telles fictions. Et nous finirions par considérer ces fictions comme si elles étaient des réalités. C'est précisément cette confusion que Wittgenstein dénonce dans le texte de 31 que je viens de vous lire, en visant Fraser en particulier. Par exemple, nous exprimons un certain sentiment que nous éprouvons parfois à l'égard de notre existence en disant que tout se passe comme si nous pouvions choisir notre corps et donc le point de vue que nous avons sur le monde. Et ajoute Wittgenstein, au sujet de cet exemple, l'expression de ce sentiment est comparable au mythe ou à la croyance que nous aurions choisi notre corps avant de naître. Pour Wittgenstein, l'erreur de Fraser est d'appréhender ce mythe comme l'affirmation d'un fait, c'est-à-dire de prendre l'expression analogique du sentiment évoqué pour la croyance erronée en une réalité fictive. Contrairement à ce qu'affirme le fictionnalisme de Weinger, les peuples dont Fraser étudie les mythes ne prenaient pas illusoirement ces derniers pour des réalités, selon Wittgenstein. Dire le contraire reviendrait à nier purement et simplement la dimension symbolique de l'être humain. Dans le même texte du manuscrit 110 que je citais tout à l'heure, la remarque adressée par Schiller à Goethe et rappelée par Wittgenstein va exactement dans le même sens. Elle figure à l'origine dans un passage autobiographique où Goethe raconte l'épisode suivant. Afin d'expliquer sa conception de la métamorphose des plantes à Schiller, il entreprend de représenter concrètement la plante originelle dont toutes les autres plantes sont censées dériver. Il faut dire que Goethe a parfois pensé, pas toujours, mais parfois pensé, que la plante originelle était une plante réelle qu'il finirait par la découvrir. Je crois que c'est notamment ce qu'il a cru pendant son voyage en Sicile. Donc, que la plante originelle était une plante réelle et à ce titre susceptible d'être un objet d'expérience. C'est pour cela que Schiller dit, attention, ce n'est pas une expérience, c'est une idée. Pour cela, rapporte Goethe, il place donc sous les yeux de Schiller, ce qu'il appelle, lui Goethe, dans le récit de cette anecdote, une plante symbolique qu'il a dessinée. Mais Schiller, après avoir attentivement regardé le dessin, déclare en bon kantien, ce n'est pas une expérience, c'est une idée. Alors, il est remarquable que Wittgenstein choisisse d'évoquer cette anecdote au moment même où il tente d'élucider son concept de présentation synoptique. C'est un manuscrit, le manuscrit 110. Il réfléchit, c'est un document de travail. C'est qu'il se met lui-même en garde contre une certaine façon erronée de concevoir le statut du symbole que constituent les objets de comparaison au moyen desquels la présentation synoptique doit être construite. Comme nous l'avons vu, l'un des résultats attendus de cette présentation synoptique est de faire apparaître des ressemblances ou encore un aspect commun à plusieurs cas afin de montrer que tel cas particulier n'est pas singulier. Le vers de Goethe que cite Wittgenstein est ainsi précédé de celui-ci. Toutes les formes se ressemblent, mais aucune n'est identique à l'autre. Mais le risque est grand, évidemment, de croire alors avoir découvert une essence commune aux différents cas qui semblent soudain similaires, lorsqu'on a affaire à une ressemblance. Mais ce n'est pas tout. La distinction que Wittgenstein cherche à marquer ici est très proche de celle que Kant, invoquée par Schiller, avec la distinction Erfahrung-Idee, établie entre la signification symbolique d'une œuvre d'art et la signification conceptuelle d'une image illustrative. Il faudrait comparer ici le schématisme transcendantal dans la première critique avec la théorie du symbolisme qu'on trouve notamment au paragraphe 59 dans la troisième critique. De même que selon Kant, tout se passe comme si l'œuvre résultait de la schématisation d'une idée de la raison sur le mode de la schématisation d'un concept par une image illustrative, pour Wittgenstein, tout se passe comme si la juxtaposition de cas différents manifestait une essence commune que prétendument ces cas partageraient. Et de même que l'erreur de Fraser était de prendre l'expression analogique que formulait le mythe pour l'affirmation d'une réalité métaphysique, l'erreur est ici de prendre le sentiment de la présence d'une loi commune pour la perception d'une telle loi. Les analogies, pourrait-on dire, ne sont en réalité que par analogie la manifestation d'une essence commune. Et Wittgenstein remarque exactement dans ce sens à la même époque, à propos du même vers de Goethe, je cite, et c'est dans le handout, au milieu de la page 3, « Et ainsi, le cœur indique une loi secrète », cite de nouveau le vers de Goethe, et il ajoute, il commente, « qu'il indique et l'effet qu'il produit en nous, ce n'est pas une loi que nous percevons, mais quelque chose que nous pourrions appeler le pressentiment d'une loi, dit Anum eines Gesetzes. L'erreur que Wittgenstein dénonce en invoquant la mise au point de Schiller, dont on se souviendra ici qu'il fut un lecteur assidu de la troisième critique de Kant, revient donc à se prononcer sur la nature du symbole que constitue la présentation synoptique, ce qui nous donne de nouveau l'occasion de mesurer la distance qui le sépare du symbole de la notation logique tractatuséenne. Avec la présentation synoptique, il ne s'agit plus d'un symbole au sens figuratif ou représentatif, ce qui était censé constituer la plante originelle dessinée par Goethe et soumise à Schiller, ainsi que l'octaèdre des couleurs de 1930, mais, je propose cela en tout cas, d'un symbole au sens esthétique. Qu'on appelle présentation synoptique l'objet de comparaison lui-même ou l'ensemble formé par celui-ci et ce à quoi il est juxtaposé, le symbole qu'elle forme est destiné à mettre en évidence des aspects communs, ceux-là même qui suscitent le sentiment que tout se passe comme si une essence commune avait été découverte, mais qu'il faut évidemment se garder d'interpréter ainsi. Un peu comme l'œuvre d'art est destinée pour Kant à stimuler l'esprit, par le biais sensible du regard notamment, de façon à le tourner vers le domaine du suprasensible des idées, le symbole de la présentation synoptique vise à remplir une fonction de stimulation dit regard qui doit permettre de modifier celui-ci. Dans les deux cas, ce que nous fait la présentation d'Arstellung, et Kant utilise d'ailleurs ce même terme de d'Arstellung, à propos de la présentation des idées dans le domaine de l'art, ce que nous fait la présentation qui est placée sous nos yeux, ce que nous fait le symbole dans le rapport esthétique que nous entretenons avec lui et qu'exprime la locution « comme si », remplit une tâche précieuse de conversion de la pensée. Mais évidemment, ici s'arrête la proximité. C'est que pour Kant, il y a bien une idée suprasensible qui n'est qu'indirectement présente dans son expression symbolique artistique, alors que pour Wittgenstein, l'idée même d'essence est illusoire et l'aspect commun saisi, grâce à la présentation synoptique, ne fait pas signe au-delà de lui-même. La citation de Schiller, j'ai indiqué tout à l'heure, qu'on a trouvé tout à l'heure dans le manuscrit 110, ne doit donc certainement pas être lue comme une affiliation au kantisme, mais plutôt comme le rejet de toute illusion d'une idée. En un sens, Wittgenstein radicalise le « comme si » kantien au point de dissoudre l'idée elle-même, qui semble se présenter indirectement, et de cette façon, il renferme le symbole dans l'immanence de la morphologie. Au total, le texte du manuscrit 110 marque donc le moment où Wittgenstein s'affranchit de la conception dogmatique de la présentation synoptique. La tentation philosophique inhérente au « comme si » et la nécessité de lui résister correspondent en effet respectivement au dogmatisme que Wittgenstein reproche à partir de 1931 à ses propres analyses antérieures, et à l'antidogmatisme qu'il ne cessera de revendiquer dès lors. Revenir de celui-là à celui-ci suppose précisément de s'en tenir au comme si du constat d'un aspect, ou plus précisément de reconnaître un sens comparatif et non pas catégorial au comme, c'est-à-dire de se contenter de voir surgir des aspects communs sans affirmer pour autant qu'il y a un élément commun. La visualité, l'aspect et l'antidogmatisme sont donc ici étroitement liés. Par conséquent, si Wittgenstein, à partir de 1931, comme dans le Tractatus et les remarques philosophiques de 1930, pense que ce que doit présenter la philosophie échappe au champ de la dissibilité, c'est à chaque fois pour des raisons fort différentes. En 1921 et en 1930, le symbole montre l'essence, et l'essence ne peut pas être dite. À partir de 1931, le symbole est visuel afin de préserver la pensée de toute affirmation d'une essence. L'objet de comparaison des recherches n'est donc pas un symbole au même sens que l'octaèdre des couleurs de 1930. J'ai proposé de le considérer comme un symbole au sens esthétique. Alors, j'aimerais donner quelques indications supplémentaires pour finir. sur ce point-là. Nous entretenons un rapport esthétique au langage au sens où il nous affecte sans cesse, pourrait-on dire, si l'on considère ce que dit Wittgenstein. D'une façon assez kantienne, on pourrait dire que le mode de présentation des choses que constitue notre langage nous affecte en retour. Les surgissements d'aspects sont le résultat de cette affection évoquée par Wittgenstein à de multiples reprises, et ils déterminent la forme de présentation à travers laquelle nous considérons la grammaire de notre langage. La mise en évidence d'aspects d'abord inaperçus, destinés à briser l'emprise sur nous d'un aspect donné, produit ainsi pour Wittgenstein une compréhension qui est très proche de celle qui caractérise l'expérience esthétique. De là, je crois, la parenthèse que j'évoquais tout à l'heure. Dans la remarque qui précédait, Wittgenstein soulignait d'ailleurs, je le cite, c'est dans le document, hein, troisième citation en partant du bas de la page, « L'une des tâches les plus importantes que nous avons à réaliser est d'exprimer tous les enchaînements de pensées erronées d'une façon si spécifique que l'interlocuteur dise « Oui, c'est exactement ce que je voulais dire ». Nous ne pouvons amener quelqu'un à dépasser une erreur à moins qu'il ne reconnaisse cette expression comme l'expression véritable de son sentiment. C'est-à-dire, c'est seulement s'il la reconnaît comme telle qu'elle est l'expression adéquate. Nous sommes ici très proches de ce que Wittgenstein dit à la même époque que le texte que je viens de vous citer, c'est-à-dire en 1938, au sujet de la compréhension esthétique. Et là, je pense à ses leçons sur l'esthétique de cette année 1938. Il ne s'agit pas d'énoncer une explication, mais de faire apparaître un aspect, par un geste, par exemple, ou par un verre, aspect qui produit la satisfaction chez celle ou celui qui cherche à comprendre. Wittgenstein remarque ainsi à propos de l'examen d'une phrase musicale dont on déclare qu'elle apporte une conclusion sans pouvoir justifier une telle déclaration, je le cite, « la même illusion étrange dans laquelle nous sommes quand il semble que nous recherchions le quelque chose qu'exprime un visage, alors qu'en réalité nous abandonnons aux traits qui sont devant nous. La même illusion nous possède encore plus fortement si, alors que nous répétons une mélodie de sorte qu'elle fasse toute son impression sur nous, nous disons « cette mélodie dit quelque chose ». Et c'est comme si j'avais à trouver ce qu'elle dit. Et pourtant, je sais qu'elle ne dit rien qui soit tel que je puisse exprimer ce qu'elle dit en mots ou en images. Là, il y a une affinité avec ce que peut dire Kant dans certains paragraphes de la troisième critique, je pense notamment aux paragraphes 9 à 11. Je ne dirai rien à ce sujet-là, mais on peut manquer d'être frappé par la proximité. Le texte suivant produit le même sentiment. Vous dites dans ce cas que c'est indescriptible. Mais cela ne signifie pas que vous ne puissiez pas dire un jour de quelque chose que c'en est une description. Vous pouvez trouver un jour le mot ou le vers qui s'y adapte. C'est comme si il disait, point de suspension, et vous avez un vers. Alors, il peut arriver que vous disiez, maintenant, je l'ai compris. Tout comme pour le problème philosophique, la perplexité esthétique se dénoue par la mise en évidence d'un aspect que peut opérer un geste ou, dit Wittgenstein, une comparaison, il y insiste souvent, comme lorsqu'on dit, joue ce passage comme si tu tirais une conclusion. Et le mot qui dit l'aspect est le mot salvateur, hein, das erlösende Wort, expression qu'on trouve dans le poème de Goethe, celui qui satisfait l'interlocuteur. Le mode d'intelligibilité propre à la vision synoptique, et donc mode d'intelligibilité propre aux problèmes et aux thèses philosophiques, s'apparenterait donc fortement à celui de l'explication esthétique. On ne peut pallier la perplexité esthétique, je cite la Wittgenstein, qu'en ayant recours à des types particuliers de comparaison. Et le critère que l'explication qu'on a ainsi donnée est la bonne, et je finirai là-dessus, je cite Wittgenstein, que cela vous a satisfait. Merci de votre attention.
Je vous remercie de votre exposé. Je crois que c'est difficile d'être plus gründlich, comme dit l'allemand, et d'aller plus loin que vous l'avez fait dans votre tentative d'élucidation. De la signification de cette notion d'Übersichtliche Darstellung et de l'usage qu'en fait Wittgenstein. Alors, il y a évidemment une question qu'on est tenté presque inévitablement de vous poser, et c'est au fond celle du rapport exact qui existe entre l'importance, disons, théorique que Wittgenstein accorde à cette notion d'Übersichtliche Darstellung et la manière dont elle apparaît, enfin, dont elle se manifeste dans la résolution, hein, entre guillemets, ou la tentative de résolution de telle ou telle espèce de problème. Mm-hmm. Par exemple, si on se pose la question du langage privé, ou mm-hmm. celle de ce que c'est que suivre une règle, je ne dis pas du tout qu'il serait impossible de montrer que c'est bien grâce à un usage judicieux de l'Übersichtliche Darstellung qu'on arrive à quelque chose qui mérite d'être appelé une solution du problème. Hein. Mais ça serait, je crois... très difficile à montrer dans le détail, et peut-être plus difficile encore après tout ce que vous avez dit. Enfin, c'est, en tout cas, c'est une question qu'il faut garder présente à l'esprit, hein, qui est beaucoup de commentateurs de Wittgenstein se sont posés, comme d'ailleurs à propos de beaucoup de philosophes, hein, cette question du rapport entre ce qu'il fait en philosophie et ce qu'il dit sur ce qu'il fait, ou la manière dont il le présente, notamment à travers cette question de Übersichtliche Darstellung. Mm-hmm. Alors, il y a une ou deux questions que je voulais vous poser, et je les formule rapidement. Il y en a essentiellement deux, d'ailleurs. Vous n'avez pas du tout parlé du rapport à Spengler.
Oui.
Bon, en dépit du fait qu'il y a un passage, hein, c'est celui de... on ne retrouve pas dans le, si je me souviens bien, dans le paragraphe 122 des recherches philosophiques, la vision à Spengler. Il l'a supprimé, mais elle figure dans le manuscrit, donc vous avez le passage est reproduit à la page 3. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il dit le concept de présentation synoptique est pour nous d'une importance fondamentale. Il désigne notre mode de présentation, la manière dont nous voyons les choses. Et il ajoute entre parenthèses, en tout cas dans le manuscrit, une sorte de conception du monde apparemment caractéristique de notre époque. Il ajoute Spengler. Alors, je me suis souvent demandé pourquoi il disait que c'était une façon de faire, une façon de présenter les choses caractéristiques de notre époque. À quoi il fait allusion exactement ? Est-ce qu'il pense uniquement à Spengler ? Il ne suffit pas que ce soit le procédé utilisé par Spengler pour que ça devienne caractéristique
bien
de
sûr.
L'époque. Alors, est-ce qu'il veut dire que, et là, ça irait assez dans le sens de ce que dit Spengler, qu'il y a un déclin du mode d'explication causale, qui s'est révélé en tout cas radicalement insuffisant pour le traitement des problèmes, notamment des problèmes esthétiques et philosophiques, mais pas seulement de ceux-là. Hein, est-ce que c'est ça qu'il veut dire ? Donc, il serait intéressant d'essayer de voir, mais je ne suis pas certain qu'on puisse aller beaucoup plus loin que ne l'ont fait jusqu'à présent les commentateurs. De quelle façon exactement il a été influencé par Spengler, puisqu'il reconnaît qu'il l'a été, il reconnaît explicitement, il me semble incontestable qu'il l'a été. Enfin, ça mériterait peut-être que qu'on essaie d'en dire un petit peu plus. Et puis, il y a la question de la relation à Weihinger. Ça m'intrigue beaucoup, parce que je dois vous avouer que même après vous avoir entendu, je ne suis toujours pas certain d'avoir compris ce qu'il veut dire. Quand il reproche à la philosophie du Comte de confondre le symbole, l'image et la réalité, c'est ça qu'il dit.
Gleichnis et Wirklichkeit,
oui. Oui, mais Weihinger aurait été indigné d'entendre ça. Il est le premier à ne pas confondre ces deux choses.
Bien sûr.
Il dit clairement la philosophie du Comte. La théorie des fictions de Weihinger, qui consiste à chercher à détecter la présence de fiction à peu près dans tous les domaines du savoir et de la culture, hein, la science, la religion, la morale, le droit, etc., bon, les mathématiques. Weihinger distingue les fictions proprement dites des semi-fictions. Les fictions proprement dites sont des contradictions. Je crois que c'est de cette façon qu'il traite l'infiniment petit, par exemple. Donc, ce sont des erreurs. Les fictions sont des erreurs volontaires. Et pour certaines d'entre elles, à savoir les fictions proprement dites, qu'il oppose aux semi-fictions, les semi-fictions correspondent à des possibilités. Ce sont des choses qui n'existent pas, mais qui pourraient, le cas échéant, exister. Tandis que les fictions proprement dites contiennent une contradiction interne. Mais en tout cas, la philosophie du Comte, qui traite les fictions comme des erreurs volontaires, indique clairement que ce sont des fictions que nous commettons délibérément et en conscience de cause. Donc, nous ne devrions pas prendre le risque de confondre, dans ce cas-là, l'image avec la réalité. Nous savons très bien ce que nous faisons, et nous savons très bien que les entités fictives sont des entités qui, dans certains cas, n'existent pas, c'est les semi-fictions, et dans d'autres, même, pire encore, hein, ne peuvent pas exister. Donc, je ne sais pas si je ne sais pas si vous avez des idées plus précises que les miennes, hein, sur le reproche exact que Wittgenstein adresse à Weihinger dans cette formule qui est complètement énigmatique. C'est à ma connaissance la seule. Qui fait
c'est la seule. C'est effectivement la seule. Ce qui rend la chose très difficile à élucider. Et notamment ce qui laisse totalement indéterminé la question de savoir, la connaissance qu'il pouvait avoir de Weihinger, précisément. Qu'est-ce qu'il en savait exactement,
vous voyez ? C'est difficile pour lui de ne pas en avoir entendu parler, parce que tous les Allemands cultivés avaient entendu parler de...
Mais qu'est-ce qu'il en connaît exactement ?
Oui, alors c'est toujours un peu le problème qu'on a avec lui. Quand il fait allusion à des auteurs, on se demande toujours est-ce qu'il les avait vraiment lus, est-ce qu'il les a connus par d'autres auteurs qui les citent. Mais tout le monde s'est trouvé, je crois, confronté d'une manière ou d'une autre au fictionnalisme, hein, à la philosophie du Comte-Ci. Le problème, en effet, c'est qu'on n'a que cette allusion qui est vraiment lapidaire et énigmatique. Enfin, c'est pas, ce n'est évidemment pas un reproche que je vous adresse, mais je constate simplement que c'est vraiment difficile, quoi, de savoir ce qu'il a voulu dire exactement.
Peut-être que qu'il le lit à l'envers, hein, c'est possible.
À l'envers,
c'est au sens où il considérait que Weininger dit que nous tenons les fictions pour des réalités, oui. C'est bien ce que semble suggérer le texte.
Oui, alors si c'est ce que suggère le texte, encore une fois, je pense que Weininger aurait été furieux, parce que Dieu sait s'il accumule les précautions pour dire que normalement, nous ne sommes absolument pas victimes des fictions que nous utilisons. C'est pas que il se peut que nous soyons dans certains cas. Il y a la possibilité d'être victime de ce type de confusion entre un outil de connaissance indispensable, comme par exemple les fictions scientifiques, une confusion entre ça et une réalité proprement dite, ça c'est clair. Mais il n'y a aucune fatalité là-dedans, et surtout il n'y a aucune tendance chez Weininger qui aille dans ce sens. Bon, enfin,
d'accord.
Je ne veux pas insister là-dessus. Hein,
mais concernant vos deux premières remarques, au sujet de Spengler, il y a évidemment la section qui s'intitule « Physionomie et systématique dans le déclin de l'Occident », la première partie. Wittgenstein a une position assez critique à l'égard de Spengler. Hein. On trouve des textes qui sont très clairement et très explicitement tournés contre Spengler et contre la confusion précisément entre le modèle et l'objet qui est comparé au modèle. Donc il y a un lien de filiation, et en même temps, Wittgenstein ne cesse de nuancer ce qu'il doit, et l'importance de ce qu'il doit à Spengler. Donc je serais très prudent sur la filiation. Il y a l'idée de morphologie, l'usage de modèles, de cas idéaux.
Que Spengler empruntait à Goethe.
Oui, voilà, justement, il critique la lecture spenglerienne de Goethe.
Les deux références de Spengler, c'est bien connu, sont Goethe, deux, Nietzsche. Ces deux philosophes de référence. Alors Goethe est encore, d'une certaine façon, est encore plus important pour lui que Nietzsche. Vous avez raison de remarquer que Wittgenstein n'est pas satisfait de... Wittgenstein estime avoir mieux compris Goethe que Spengler.
Parce qu'il considère vraiment, il lit vraiment Goethe comme si Goethe n'avait jamais tenu l'idéal pour quelque chose qui existe. Ce qui n'est pas le cas.
Vous avez insisté à juste titre sur le fait qu'au fond, le reproche principal qu'il adresse à Spengler, c'est celui de dogmatisme. Il veut dire que, par exemple, quand Spengler parle du déclin de l'Occident, il se comporte de façon dogmatique. S'il avait voulu éviter toute espèce de dogmatisme, il aurait dû dire à peu près ceci, en rapprochant telles ou telles espèces de phénomènes, de façon, on peut obtenir quelque chose comme une présentation synoptique qui autorise à percevoir l'évolution récente de l'Occident.